France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Soyez les bienvenus sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 7 décembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une question que se posent des millions de Français, faut-il se faire tester avant les fêtes de Noël en famille. Témoignages et analyses dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
Les assureurs vont-ils enfin faire un geste pour les hôteliers restaurateurs? Réponse ce matin. Les ultimes discussions tendues entre les citoyens de la Convention climat et l'exécutif. Une enquête inédite de 25 médias internationaux dont Radio France sur l'assassinat d'une journaliste mexicaine. Et puis le Louvre a besoin de vous pour pérenniser ses projets.
Et nos invités ce matin à 7h50, Léa.
Oui. Et elle a quitté les réseaux sociaux la semaine dernière en expliquant dans un message qu'elle est harcelée par un homme depuis 3 ans et que c'est très dur à vivre. Elle a accepté d'en parler pour la première fois ce matin. Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France, sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec la présidente de la région Île-de-France, également présidente du mouvement Libre. J'ai nommé Valérie Pécresse, elle dialoguera avec vous également. 01 45 24 7000, le standard est ouvert et vous attend.
France Inter.
Test ou pas test? Telle est la question qui agite les familles à 2 semaines des vacances de Noël, car les chiffres publiés hier soir par Santé publique France sont mitigés, avec une hausse des hospitalisations Covid, un taux de positivité des tests qui stagne à 10,7% depuis 3 jours, et surtout encore 11 000 contaminations en 24 heures, loin de l'objectif des 5 000 cas fixé par le gouvernement pour lever les mesures de confinement le 15 décembre prochain. Alors, se faire tester avant toute réunion familiale, c'est le choix que s'apprêtent à faire de nombreux Français. Reportage à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines de Yann Gallic.
Alexis espère fêter Noël en famille. Si tout va bien, il rejoindra sa mère en Vendée, comme chaque année, avec sa femme et ses 2 enfants, âgés de 16 et 12 ans.
Ma mère a 75 ans. Son inquiétude, c'est qu'on ne puisse pas venir, mais elle ne veut pas prendre de risque inutile. Enfin, de toute façon, elle est dans une transe où le risque commence à être sérieux. Donc voilà, il y a quand même un gros point d'interrogation sur ce qu'on fait. On fait déjà pas mal attention. Hein. On est en télétravail, on sort peu, on respecte pas mal les règles du confinement, on a l'application Stop Covid. Mais là, on fera encore plus attention.
Alexis prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter les risques de contamination. Il a même prévu de faire passer un test de dépistage à toute la famille juste avant Noël.
L'idée, c'est d'attendre les vacances scolaires. On va tester tout le monde. Et entre le moment du test et les résultats, on restera à la maison. On essaiera de prendre le moins de risques possible d'infection. Puis si quelqu'un est infecté, on n'ira pas. Donc voilà, oui, on prendra la décision au dernier moment. Il faut de la souplesse et puis être raisonnable.
Quoi qu'il en soit, chez Alexis, ce sera un Noël masqué et en petit comité. Un Noël pas vraiment comme les autres.
En petit comité, effectivement, puisque les consignes officielles sont de 6 adultes maximum. Alors, se faire tester, c'est une bonne idée, estime le biologiste Lionel Baran. Mais attention, ce n'est pas la panacée.
Le test n'est pas en soi un passeport de contagiosité et ce n'est pas non plus un remède miracle. Donc, si on veut éviter de contaminer l'ensemble de la famille, premièrement, il faut faire très attention les 15 jours avant pour éviter qu'on soit en phase d'incubation et qu'on soit donc contagieux et qu'on diffuse le virus. Et puis ensuite, évidemment, il faut faire attention au moment T, c'est-à-dire en famille, éviter de s'embrasser. Après, qu'on fasse le test avant, oui, on peut le faire, mais il faut faire le test principalement si on a un doute, si on a un risque d'avoir été contaminé parce qu'on a été en contact avec des personnes sans masque, ou si on a des symptômes. Encore une fois, si on pouvait tester 70 millions de Français tous les jours, je vous dirais peut-être autre chose, mais évidemment, ce n'est pas possible. Et les tests, en plus, on a des faux négatifs, surtout dans les tests antigéniques. Donc, ce serait contre-productif de dépister tout le monde et que ces personnes-là ne fassent plus du tout attention et s'embrassent dans le cadre familial ou dans le cadre privé.
Un propos recueilli par Alice Cachaner. Noël avec tonton, cluster au balcon, ce sera le sujet du Téléphone Sonne ce soir avec Fabienne Synthèse. Montrés du doigt depuis le début de la crise pour leur manque d'implication, les assureurs vont-ils accepter de geler les cotisations? C'est en tout cas la demande du ministre de l'économie. Alexis Morel, la réponse est attendue ce matin.
C'est à 11h que les compagnies d'assurance reçues à Bercy doivent donner leur réponse au ministre de l'économie. Juste avant, la Fédération française de l'assurance réunit son conseil exécutif pour définir une position commune. Bruno Le Maire demande donc au minimum un gel des primes pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Sinon, le gouvernement soutiendra un amendement du Sénat qui prévoit une taxe exceptionnelle de 2% sur ces primes. Un chantage scandaleux, a dénoncé ce week-end dans Le Parisien le patron d'AXA, tout en ne rejetant pas complètement complètement ce gel des cotisations, c'est une piste que nous regardons de près, explique Jacques de Peretti. Les discussions entre assureurs se poursuivaient encore hier soir, mais selon nos informations, plusieurs d'entre eux ont bien consenti à geler leurs primes. L'enjeu est financier, mais aussi en termes d'image pour ce secteur, accusé depuis le début de la crise sanitaire de ne pas en faire assez. Injuste, selon les assureurs, qui affirment avoir engagé près de 4 milliards d'euros dans des mesures de soutien à l'économie.
Et puis la prime allouée aux enseignants pour s'équiper en matériel informatique sera versée en janvier, son montant 176 euros. Le décret est paru hier au journal officiel.
Il est 7h05, Agnès, l'heure du verdict pour la Convention citoyenne sur le climat.
3 ans après le fameux Make Our Planet Great Again, Emmanuel Macron est au pied du mur. Il doit rendre les derniers arbitrages sur les 149 propositions de la Convention. Le chef de l'État s'était engagé à n'utiliser que 3 jokers, mais ces derniers jours, la tension est montée d'un cran. Et c'est donc dans ce contexte que se tiennent aujourd'hui et demain une série de réunions en visio où le gouvernement va rendre sa première copie de la loi aux citoyens et à des parlementaires. Élodie Forêt.
6 chapitres, 80 articles et un atterrissage délicat pour la future loi, reconnaît un conseiller ministériel. Car face au gouvernement, certains citoyens et parlementaires sont désabusés. Le député Mathieu Orphelin, ex-marcheur, regrette un manque de concertation.
Mi-juillet, on avait réuni les citoyens, un certain nombre de parlementaires, et on nous disait, voilà, on va co-construire la loi tous ensemble. On va pas arriver avec une copie toute faite. On nous annonçait des concertations de fin août à fin novembre. Aucune réunion de concertation n'a eu lieu.
Sur le fond, parlementaires et citoyens se souviennent de la promesse d'Emmanuel Macron en juin dernier de reprendre sans filtre les propositions de la Convention. Ça a permis de secouer la machine, dit un proche de la ministre Barbara Pompili. Mais aujourd'hui, c'est difficile à manœuvrer. Erwan Balanan, député Modem.
Le sans-filtre, ça n'existe pas quand on fait la loi. Et heureusement, la loi, c'est extrêmement complexe. Donc, on est dans la démarche traditionnelle de l'élaboration d'un texte, avec cette particularité d'une initiative citoyenne. Mais maintenant, il faut que le travail continue dans la sérénité.
Sérénité qu'Emmanuel Macron tâchera de réinsuffler aux citoyens lors d'une dernière rencontre prévue la semaine prochaine.
Le climat est... Il a fait chaud, très chaud cet automne. Selon le service de suivi climatique européen Copernicus, les températures du mois de novembre en Europe ont été supérieures de près de 0,8 degrés par rapport aux moyennes observées entre 1981 et 2010. La semaine sera également marquée par la présentation mercredi en Conseil des ministres du projet de loi séparatisme, officiellement baptisé « Confortant les principes républicains », avec une question à régler très vite, celle de la scolarisation obligatoire dès 3 ans, souhaitée par l'exécutif. Le Conseil d'État doit rendre un avis dans la journée. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Des heures décisives aussi à Bruxelles pour trouver un accord post-Brexit. Après des mois d'impasse, un nouveau round de négociations a démarré hier et doit s'achever ce soir.
Il est 7h08, c'est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes.
Le Mexique, 119 journalistes tués en 20 ans et un palier franchi avec la mort en 2012 de Regina Martinez. C'est la nouvelle enquête internationale baptisée Projet Cartel, menée par le consortium Forbidden Stories. 25 médias partenaires, dont la cellule d'investigation de Radio France. L'histoire de cette journaliste est emblématique de la violence des cartels et de la corruption au Mexique. Les précisions d'Abdelhak Edrissi.
Regina Martinez travaillait pour Proceso, un journal d'investigation national. Elle est morte, étranglée chez elle en 2012. Et son meurtre a marqué une étape supplémentaire dans les violences contre les journalistes, comme le raconte Jorge Carrasco, le directeur du journal.
Les assassinats de journalistes au Mexique ont commencé à partir des années 2000. Et jusqu'en 2010, les assassinats visaient des journalistes de presse locale. En 2012, quand Regina a été assassinée, les délinquants ont envoyé un message très fort. À ce moment-là, la barrière qui protégeait les journalistes de la presse nationale s'est rompue. C'était la démonstration qu'eux aussi pouvaient être visés.
La mort de Regina Martinez est également emblématique de la défaillance des autorités qui ont rapidement conclu à un cambriolage qui aurait mal tourné. Jamais l'enquête officielle ne s'est intéressée au travail journalistique de Regina Martinez sur les responsables de l'état du Veracruz. Une piste pourtant sérieuse, comme le confirme un haut fonctionnaire. Nous avons modifié sa voix.
C'était une journaliste qui dérangeait. Elle avait déjà écrit plusieurs reportages qui ne touchaient pas seulement à l'image des politiques, mais aussi à leur richesse. Je pense que ce sujet a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils se sont dit, ça suffit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire quelque chose.
L'actuel président mexicain s'est récemment dit favorable à ce qu'une nouvelle enquête indépendante soit menée sur la mort de la journaliste.
Et cette enquête internationale est à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr. Au chapitre judiciaire en France, c'est l'heure du réquisitoire au procès des attentats de janvier 2015. Une journée et demie pour soutenir l'accusation contre les 14 accusés de ce procès. Audition très attendue de Nicolas Sarkozy, poursuivi pour corruption et trafic d'influence dans le procès dit de l'affaire des écoutes. Et puis s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises à Marseille le procès de deux hooligans russes accusés d'avoir frappé un supporter anglais lors de l'Euro 2016. Des scènes d'une rare violence sur le Vieux-Port, Laurent Grollet.
Cet après-midi du 11 juin 2016, Andrew est attablé cour des Stiendorf avec d'autres Anglais venus soutenir leur équipe. Il fait chaud, la bière est appréciée sans modération. Quand les premiers coups partent, des chaises, des tables sont échangées. Entre Russes et Anglais, la situation dégénère. On voit alors Andrew Betch, qui n'a pas le physique d'un sprinter, se faire rattraper par les hooligans russes. Il reçoit 3 à 4 violents coups à la tête alors qu'il est déjà au sol et devra une fière chandelle à un CRS marseillais qui lui prodigue les premiers soins sous une pluie de projectiles. Cet après-midi, c'est Harry, le fils d'Andrew, qui sera présent à l'ouverture du procès. Il fera face à Mikhail Igvin et Pavel Kossov, deux des agresseurs présumés de son père, un chauffeur et un professeur de sport russe incarcéré depuis le mois de mars 2018 en France. Andrew, lui, est absent, lourdement handicapé depuis l'agression. Il ne supporte plus de revenir à Marseille, confie Olivier Rosato, son avocat.
Et le verdict est attendu vendredi. Enfin, le musée du Louvre devrait rouvrir d'ici 10 jours. Les pertes se sont accumulées au fil des mois, d'où l'opération Enchérissez pour le Louvre, une vente aux enchères en ligne d'œuvres exceptionnelles. Jacqueline Petroz.
On peut acheter du rêve, une visite de nuit du musée à la torche électrique, une balade sur les toits avec JR ou assister au décrochage annuel de la Joconde. Chez Christie's, on s'est emballé pour cette vente pas comme les autres et on s'est activé pour installer les lots plus concrets comme cette robe miniature de Dior dans sa malle, ce mobile de Xavier Veillant ou le tableau de Pierre Soulages. Émilie Villette, directrice du développement chez Christie's.
C'est le joyau de la vente. On voit la maestria du grand maître, son travail sur la couleur et la texture. L'œuvre est estimée entre 800 000 euros et 1 million d'euros. Cette vente, elle est inédite. C'est vraiment donner accès à de l'inaccessible, aux rêves, aux plus exceptionnels.
La vente va aider à financer le studio, un lieu éducatif dans le musée prévu pour 2021. Yann Le Touer, sous-directeur du mécénat au Louvre.
Un nouvel espace dédié à la pratique artistique afin que tout le monde, les jeunes en particulier, puissent se familiariser avec nos collections et à travers des ateliers tout au long de la journée, appréhender ces collections de manière ludique et familiale.
Le Louvre, avec près de 90 millions d'euros de pertes, doit innover pour son mécénat. Le 15 décembre à 15h tomberont les coups de marteau virtuels de cette vente totalement nouvelle.
La vente est en cours et sinon vous pouvez aller voir gratuitement les œuvres qui sont exposées chez Christie's.
Merci Agnès Soubiran.